Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, certains évoquent déjà une discrimination à l'embauche contraire aux règles européennes. En Autriche, pour relancer l'économie, le gouvernement a décidé d'accorder des aides aux employeurs qui embauchent. Ils bénéficient de réductions de cotisations patronales pendant 3 ans, mais la mesure ne s'applique pas pour l'emploi d'étrangers qui n'ont jamais travaillé dans le pays. Écoutez le reportage de Céline Béal.
Dans le parc du Prater, à Vienne, l'écurie de Martina Michelfeit abrite 30 chevaux, 3 chiens, 4 chats et 2 cochons, en plus d'autres animaux. Pour l'aider à s'occuper de tout ce petit monde, Martina emploie 5 personnes à l'année et une demi-douzaine de saisonniers. Bientôt, elle prévoit d'embaucher un informaticien pour développer son site internet. Ce qui l'a encouragée à faire cet investissement, c'est une prime prévue par le gouvernement pour les entreprises qui créent des emplois. Sur ce nouveau poste, l'employeuse devrait bénéficier de la réduction de moitié de ses charges salariales, et cela pendant 3 ans.
Cet emploi, je le crée vraiment. Je n'aurais jamais osé sans cette prime. D'autant que j'embauche quelqu'un qui a plus de 50 ans, ce qui veut dire un plus long préavis de licenciement si ça ne marche pas. Ça signifie aussi payer un temps quelqu'un qui ne travaille pas. C'est un vrai coût pour ma petite entreprise.
Mais voilà, la prime sur laquelle se sont accordés les partis au gouvernement, conservateurs et social-démocrates, ne concernera pas tous les nouveaux postes, mais seulement ceux qui reviennent à des personnes ayant déjà travaillé en Autriche, quelle que soit leur nationalité, ainsi que celles qui sortent d'un institut de formation du pays. En clair, sont seulement exclus les étrangers qui voudraient venir en Autriche, même si une exception est prévue pour certains ressortissants extra-européens particulièrement qualifiés. Martina Michelfeit trouve qu'il est justifié de restreindre l'embauche d'immigrants.
Nous avons le devoir d'aider les réfugiés. Nous avons le devoir de nous engager politiquement pour que leur région se stabilise. Mais nous avons aussi le devoir de veiller à ce que tout se passe bien chez nous. Et ça ne fonctionnera pas si nous laissons notre système déborder.
Davantage que les réfugiés évoqués par la patronne d'écurie, le gouvernement vise surtout les Européens de l'Est. En effet, l'augmentation du chômage en Autriche est liée à l'immigration de travailleurs roumains, bulgares et hongrois, attirés par les salaires plus élevés dans la République d'Europe centrale. Le chancelier social-démocrate Christian Kern justifie donc une telle réponse protectionniste par l'attitude des partenaires de l'Est, eux qui refusent de lutter contre le dumping social. Et tant pis si les règles communautaires interdisent les discriminations à l'embauche, Vienne semble prête à défier Bruxelles si une baisse du chômage national est à la clé.
Je crois que cette prime peut en partie contribuer à une baisse du chômage, mais il ne faut absolument pas s'attendre à des résultats miracles.
Rainer Eppel est spécialiste du marché du travail à l'Institut autrichien de recherches économiques VIFO. Pour lui, la prime peut effectivement inciter certains chefs d'entreprise à créer des emplois, mais l'annonce du ministre de l'économie, le conservateur Reinhold Mitterlehner, qui attend jusqu'à 160 000 nouvelles places, lui semble trop optimiste. Néanmoins, explique-t-il, une réduction des charges qui pèsent sur l'emploi pourrait avoir des effets bénéfiques.
C'est un premier pas qui montre la volonté d'améliorer le moral des entreprises. La mesure peut servir à créer un climat favorable aux investissements. C'est important aussi.
Malgré cela, le chercheur regrette que cette mesure soit isolée. Il aurait été plus efficace pour les entreprises d'engager une réforme structurelle des charges patronales. Économiquement justifiée, quoique limitée, la mesure est surtout critiquée d'un point de vue politique. Outre celle des écologistes qui appellent de leur vœu une action commune pour l'emploi au niveau européen, une autre voix discordante s'élève dans l'opposition, celle du petit parti libéral Neos. Leur député Gerald Loacker fustige ainsi une mesure populiste, court-termiste et sur la ligne du FPE. Le parti d'extrême droite a d'ailleurs salué la direction prise par le gouvernement.
On voit bien que les sociaux-démocrates et les conservateurs essayent de couper l'herbe sous le pied du FPE en prenant eux-mêmes des positions anti-immigration. On le constate déjà avec le plafonnement des demandes d'asile, avec la volonté de diminuer les allocations familiales pour les travailleurs étrangers et maintenant avec cette prime à la création d'emplois. En réalité, le gouvernement fait le travail des partis nationalistes.
Dans son bureau, sous un portrait de Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre britannique, Gerald Loacker tremble pour la libre circulation sur le continent.
Ce qu'oublie le gouvernement, c'est que bien évidemment d'autres pays européens répliqueraient par la fermeture de leur marché du travail, de sorte que les travailleurs autrichiens, comme l'économie autrichienne, seraient lésés.
Reste à savoir si Bruxelles va sanctionner l'Autriche. Selon le gouvernement viennois, le projet reste dans les clous du droit communautaire, puisqu'il ne discrimine pas les ressortissants européens en bloc. Ceux qui sont déjà présents en Autriche peuvent effectivement profiter de la prime. Seuls les nouveaux arrivants en sont exclus, et ce genre de restriction peut dans certains cas être toléré. C'est ce que le pays espère, non sans appréhension.
I'm a little leprechaun dressed in green, the tiniest man that you have seen. If you ever catch me, so it's told, I'll give you my big pot of gold.
Frappée de plein fouet par la crise immobilière en 2008, l'Irlande s'est peu à peu remise sur les rails, passée une cure d'austérité drastique. Depuis 2 ans, le produit intérieur brut ne cesse de grimper, dopé par une croissance insolente. Pourtant, Dublin a décidé de ne plus se fier à ce seul PIB pour juger de l'état de son économie. À partir de 2018, c'est le revenu national brut ajusté qui servira d'étalon à la santé du pays. Explication de Julien Lagache.
Les analystes et les dirigeants internationaux s'étaient d'abord pincés à l'été 2016 quand l'Irlande a annoncé un taux de croissance révisé à plus de 26% pour l'année 2015. Mais la surprise a rapidement cédé la place à l'incrédulité. L'économiste Paul Krugman s'est même moqué à ce moment-là de ce qu'il a appelé une économie léprochaune, en référence à ce personnage du folklore irlandais bien connu pour aimer compter ses pièces d'or. En fait, en 2015, beaucoup de sociétés étrangères ont profité des largesses fiscales de l'Irlande pour y rapatrier des actifs, près de 300 milliards d'euros, essentiellement dans le domaine de la propriété intellectuelle, autrement dit des marques ou encore des brevets. Ces éléments immatériels ont contribué à doper artificiellement la comptabilité nationale. Le vrai chiffre du PIB pouvait donc donner une fausse image de l'état économique du pays. C'est pourquoi un nouvel indicateur sera employé à l'avenir vu la spécificité irlandaise. En plus du PIB, l'Institut National de la Statistique va recourir dès 2018 au revenu national brut ajusté, une donnée qui se concentre sur ce que produit la nation alors que le PIB comprend tout ce qui est produit sur le territoire. Une nuance qui n'est pas que symbolique pour les autorités. Tout d'abord, en termes d'image, Dublin veut renouer avec des chiffres crédibles pour tous les acteurs économiques, aussi bien que pour les pays partenaires. Sur le plan de la gestion, ensuite, le gouvernement doit pouvoir calculer un budget en fonction de ses moyens, mais aussi mesurer en particulier le niveau de la dette. L'Irlande affiche encore l'un des taux les plus élevés en Europe, et comme les Irlandais payent encore pour le plan de sauvetage des banques au moment de la crise, il y a également un enjeu politique. Le gouvernement ne cesse de répéter que la reprise est là, mais pour beaucoup cela ne se sent pas encore, d'où l'importance de s'en tenir à une estimation de croissance fiable et nuancée pour éviter de laisser croire à un retour aux années 90 quand l'Irlande était encore appelée le tigre celtique.
Au Royaume-Uni, la première ministre Theresa May a désormais les mains libres pour lancer le Brexit. En début de semaine, les deux chambres du Parlement ont donné leur feu vert au déclenchement du fameux article 50. Alors on a beaucoup parlé des conséquences potentielles de ce divorce sur l'économie britannique. Il est également intéressant de faire un tour d'Europe des pays qui sont les plus exposés aux effets de ce Brexit. Ce que nous propose aujourd'hui Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors avant tout Daniel, combien pèse en quelques chiffres le Royaume-Uni dans l'Union européenne ?
Selon les années et les effets de change, le Royaume-Uni se dispute avec la France pour la place de deuxième économie de l'Union derrière l'Allemagne. Le pays représente 12,5% de la population de l'UE et son PIB compte pour 14% de la richesse totale produite. La Grande-Bretagne, c'est encore 13% du stock d'investissements étrangers directs de l'Europe dans le monde, 23% des exportations extra-communautaires de marchandises et près de 30% de ses exportations de services. Bref, c'est un poids lourd qui quitte l'Europe. Mais, nous allons le voir, les économies continentales sont plus ou moins exposées au Brexit en fonction de l'intensité de leurs relations économiques avec Albion.
Mais Brexit ou pas, ces relations commerciales vont se poursuivre.
Bien sûr, mais elles vont être affectées. Prenons le commerce. Il y a d'une part le probable rétablissement de droits de douane. Ce ne sera pas un gros choc compte tenu des règles de l'organisation du commerce et ces droits devraient être inférieurs à 5%. Mais à cela peut s'ajouter une nouvelle dépréciation de la livre sterling face à l'euro. Si celle-ci atteignait 10%, les exportations européennes outre-Manche s'en trouveraient donc renchéries au total de 15%, tandis que les produits britanniques achetés par l'Europe seraient au contraire moins chers en dépit d'une taxation réciproque. 20% de compétitivité en plus pour le Made in UK, cela risque de faire fondre les considérables excédents commerciaux que tous les pays du continent dégagent vis-à-vis du Royaume-Uni.
Quelles sont les conséquences de ce Brexit pays par pays, Daniel ?
L'Allemagne, avec ses 53 milliards de dollars d'excédents commerciaux à l'égard du Royaume, pourrait perdre 0,8 points de croissance sur un an, si son excédent se réduisait de moitié. C'est théoriquement plus que la France ou l'Italie, qui verraient, dans la même hypothèse, leur croissance annuelle baisser de 0,3 points. Cela dit, on sait que les produits allemands, qui comportent beaucoup de biens d'équipement et de produits haut de gamme, sont beaucoup moins sensibles au prix que les produits français ou italiens. Mais que dire des Pays-Bas, deuxième exportateur européen et deuxième excédent vers la Grande-Bretagne, qui pourrait voir sa croissance annuelle diminuer de moitié. Donc, des conséquences non négligeables pour les pays de l'UE précités, auxquels on peut ajouter également l'Espagne ou encore la Pologne.
Mais d'un autre côté, est-ce que l'Europe ne va pas tirer profit d'un déclin de la City ?
Oui, certains espèrent que la fin de la libre circulation des capitaux entre la Grande-Bretagne et le continent va engendrer une délocalisation d'activités financières de la City vers les places de Francfort ou de Paris ou encore de Milan. Mais l'hypothèse est plutôt aléatoire car Londres exporte les deux tiers de ses services financiers hors de l'Union européenne. On peut objecter que coupée de l'Europe, la City sera moins attractive, mais c'est oublier que depuis longtemps, les activités de la place de Londres sont beaucoup plus dirigées vers l'Asie ou l'Amérique que vers l'Europe.
Alors maintenant, voyons voir l'impact du Brexit sur les investissements européens au Royaume-Uni.
Avec environ 1500 milliards de dollars de stock d'investissements directs étrangers en 2014, le Royaume-Uni est effectivement la première destination européenne de l'investissement direct des pays de l'UE. Du fait que ce pays attire par sa fiscalité un nombre exceptionnel de sièges sociaux de grands groupes, les Pays-Bas sont le premier investisseur européen en Grande-Bretagne, avec plus de 250 milliards de dollars d'actifs, soit 17% du total des investissements étrangers au Royaume-Uni. Mais la France vient ensuite avec 7,5%, devant l'Allemagne 4,8% et l'Espagne 4,4%. Le Brexit peut évidemment bouleverser cette donne, avec avant tout des conséquences fâcheuses pour le financement de l'économie et des emplois outre-Manche. Mais on ne peut nier que les implications parallèles de ce Brexit en termes de redéfinition des stratégies internationales des groupes néerlandais ou français ne sauraient être neutres.
Merci Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt sur Accent.
À bientôt Laurent.
Milan Bilman, Mohamed Yilmaz, and together we are optimistic travelers. And the first project, travel around the world in 80 days without money.
Ils viennent de boucler un tour du monde en 80 jours sans un sou en poche. Pour ce périple, Milan Bilman et Mohamed Yilmaz, un jeune Allemand et un Français, ont compté uniquement sur la générosité de ceux qu'ils croisent. Le projet de jeunes Européens est aussi de montrer qu'en 2017, les hommes sont fondamentalement bons. De leur aventure, ils tirent aujourd'hui un livre, « Le tour du monde en 80 jours sans un centime », paru chez Pocket. Frédéric Lebel les a rencontrés.
Un nœud papillon rouge sur une chemise blanche, ce n'est pas forcément la tenue qu'on imagine pour ces baroudeurs à la puissance 10. C'est pourtant un des accessoires fétiches de Mohamed. Milan avait lui un diabolo orange de jonglage attaché au sac à dos. Se faire voir pour créer du lien, indispensable pour faire ce tour du monde.
Forcément, Milan est professionnel de jonglage et ça aide parce que en Iran, quand tu sors un diabolo orange et que tu le jettes en l'air et que tu le rattrapes, il tombe jamais. Eh ben les gens ils sont surpris, donc il y a du monde qui vient et souvent en fait on l'a utilisé en disant. Est-ce que on peut dormir chez quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut nous inviter à manger? Donc, dans le principe, on n'avait pas d'argent, mais on touchait pas d'argent non plus. Donc, on cherchait pas à avoir de l'argent. Le but, c'était de manger avec les gens, dormir avec eux, voyager avec eux, et c'est sûr que ça aide.
Leur duo se nomme Optimistic Travelers, et à lire le récit de leurs aventures chahutées, on se dit qu'il faut vraiment y croire contre vents et marées. Pour y arriver.
On peut le faire et on a cru au monde, c'est ça qui nous a donné la confiance en fait de partir. Et effectivement, partir sans argent, c'est quand même pas facile. Parce que sortir de la maison sans argent, c'est déjà une waouh. Et nous, on part pour faire un tour du monde. 19 pays, 47 000 kilomètres, 4 continents et 2 océans à traverser. Donc c'est quand même un peu fou, bien sûr. Mais en même temps, on y croyait. On y croyait, on s'est dit, c'est possible.
Dans leur sac, pas un centime, mais des caméras, un ordi et Internet pour exister sur les réseaux sociaux et trouver sur la toile des sponsors qui leur paieront un billet de train ou d'avion.
On est arrivé à Téhéran, bam, direct. Ouh là 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 ! On s'est dit, bon, on va aller sur la route, on fait du stop. Et boum, une voiture s'arrête. Waouh, super !
I'm from France. France, Paris.
Aujourd'hui, on voyage extrêmement léger. On voyage le tour du monde. On n'avait pas de tente, pas de sac de couchage, pas de médecin, pas de l'argent. On était vraiment vulnérables, on peut dire. Et on a toujours trouvé un endroit où dormir. Toujours.
Bon, c'est arrivé que pendant 2 jours, on n'ait pas à manger un repas chaud. Mais voilà, globalement, on a réussi notre tour du monde, ça a fonctionné. Et c'est vrai que nous, on se rappelle de ça. Mais bien sûr que quand on fait du stop, ben, y a 1000 voitures qui passent et il y en a une qui s'arrête. Bien sûr que quand on cherche à manger, ça peut arriver qu'on demande 10 fois et que c'est le 11e qui nous invite. Donc, y a beaucoup de refus quand même. Mais on pense pas à ça. Ce qui est important, c'est de trouver... d'avancer, et c'est la personne qui va s'arrêter, c'est la personne avec qui on va partager le repas, c'est la personne chez qui on va passer la nuit qui est importante, et l'aventure continue.
Idéalistes, ils le sont assurément, positifs au-delà des limites du réel. Ils traversent la ville de Quetta, au cœur du Baloutchistan pakistanais, fief des talibans, au pas de charge, certes, mais toujours avec des étoiles dans les yeux.
On arrive à Quetta, mais les informations qu'on a sur Quetta, c'est qu'une bombe a explosé dans la mosquée, c'est qu'un mec s'est fait assassiner. Et là, les changements de véhicule, c'est toutes les 5 minutes, 2 minutes. Après, on voit un mec avec anti-terroriste. Hein ? Ensuite, on monte dans un véhicule où, là, pour la première fois, le militaire se met debout, prêt. On visait, comme ça, oh, on change de véhicule, véhicule blindé. On ne sait plus ce qui se passe et on ne dit plus rien.
Si ce tour du monde n'était qu'un tour de force, on pourrait juste être amusé par ce duo improbable. Mais les Optimistic Travelers ne sont pas que des rêveurs. Ils s'engagent dans des projets humanitaires en Haïti ou en Afrique. Leur dernier voyage, I Have a Dream in Africa, leur a permis de réaliser les rêves de 18 Africains, comme celui de Mama Jean.
On s'est retrouvés donc en Zimbabwe, en pleine campagne, dans une petite maison au milieu des champs et de la terre rouge. C'est la maison de Mama Jean. Et là, on mange par terre, on est assis par terre, pas de toilette, pas d'électricité, pas d'eau courante, c'est vraiment rudimentaire. On dort par terre chez elle. Et là, elle nous partage son rêve. Elle dit, moi je rêve qu'on répare le toit de ma maison, parce que quand il pleut, l'eau elle rentre et j'arrive pas à dormir. Et la saison des pluies elle arrive. Et on dit, ok, on va changer de toit, 350 euros, et on se dit, bon, bah, peut-être que les gens veulent participer. On fait une petite vidéo avec le smartphone, on partage, on montre ça, et on lance une campagne de crowdfunding. Et Maxime, qui nous a aidés, était en France, donc lance cette campagne, et en 24 heures, on a eu les 350 euros.
Un rêve qui commence et se termine, comme toujours, sur les réseaux sociaux.
We start to change the roof. And we hope to finish tonight and Mama Jean can dream again also when it's raining.
Thank you. Leur caméra est désormais parfois embarquée sur un drone pour la beauté de l'image, peut-être aussi pour prendre un peu de hauteur sur le sens de leurs aventures. Après le monde, la France et l'Afrique, les deux voyageurs connectés vont bientôt commencer une nouvelle aventure sur une drôle de planète nommée Télévision.
Et c'est Françoise Grelot qui a réalisé et mis en onde cette édition d'Accent d'Europe. On se retrouve demain dès 12h40 en universel et tout de suite sur RFI.fr à la page émission. Dans moins d'une minute, un nouveau journal sur RFI.
Autour de la question.